Ça y est, le son arrive. Il est un petit peu plus de 14h10, presque 2h15 pour un moment exceptionnel en direct du couvent des Carmes à Beauvoir-en-Royans. Et bienvenue, chers publics, chères auditrices et chers auditeurs de Radio Campus et Radio Royan-Vercors, pour ce temps du direct, un moment historique, on pourrait même le signifier ainsi, puisque ce double direct a été mis en place donc, dans le cadre d'un événement plutôt singulier, pour le moins incroyable, hein, on pèse nos mots, vers l'avenir de le futur de demain. Je ne me suis pas emmêlé les pinceaux, c'est bien cela, hein, Bastien, vers le futur de demain. Donc bienvenue dans cet avenir qui nous réserve des choses à travers aussi des installations plastiques actuellement au couvent des Carmes. Beaucoup de choses à voir, à entendre, à découvrir. Et puis un temps aussi avec des chercheuses et chercheurs qui sont venus dans cette tablée dans la cour du couvent des Carmes à Beauvoir-en-Royan. Et puis avec aussi notre Bastien, le Trublion, qui va bien nous donner aussi un aspect original et puis aussi très spontané de tout ce qui va se dérouler en échange avec les scientifiques.
Bonjour à tous, je suis Bastien, une nouvelle voix dans vos oreilles qui va susurrer des mots tendres, doux et peut-être des fois grossiers. C'est aussi incroyable puisque à l'image d'un tunnel sous la Manche, nous sommes aussi en connexion directe avec Grenoble, puisque on est sur un direct sur Radio Campus aussi. Donc bonjour aux 6 auditeurs de Radio Campus et aux 12 auditeurs de Radio Royan, on les embrasse. On est 18 et on est hyper contents de ce monde qui nous écoute. Donc voilà, je vais susurrer tous ces mots-là durant 2 heures du direct, ça va être long. N'hésitez pas à nous écrire, à envoyer des cartes postales ou des petits textos pour nous dire que c'est trop long.
Le couvent des Carmes d'ailleurs qui représente à cet effet un trait d'union géographique, on pourrait dire, entre Grenoble, Radio Campus et Radio Royan-Vercors. Pas mi-chemin, mais en tout cas, ça fait une certaine liaison.
Bien sûr, et j'en reparlerai tout à l'heure, vive le Dauphiné libre. voilà, et on sera à la recherche de Humbert II tout au long de cette émission.
Une émission à laquelle nous allons nous intéresser de très près au réchauffement climatique ou changement climatique, voire dans les termes ce qui est le mieux approprié. Et bien sûr, toute la communication scientifique, Bastien. Un mot des invités à notre table?
Oui, je pense qu'on peut les présenter. Donc du coup, dans le coin droit de la table, elle arbore un beau petit pull à fleurs, des petites bouclettes, un sourire efficace et charmant. Annelise Mureau, bonjour Annelise. Annelise qui est ingénieure de l'agriculture, pas du tout, si tu es ingénieur, on peut dire que tu es ingénieur.
Ingénieur de l'agriculture.
Voilà. Et de l'environnement, et tu es en thèse, enfin, tu rentres dans le tunnel de la thèse. Hein.
Le tunnel où j'ai mis justement l'été de froidement pour entrer dans le tunnel.
Voilà, c'est ça. Donc là t'es parti. Donc, et le nom de la thèse, il n'est pas compliqué pour une fois, contrairement à d'autres chercheurs qui sont peut-être présents ici. La résilience des exploitations transhumantes ovines face au changement climatique, c'est ça?
C'est exactement ça. Donc pour complexifier un petit peu, si c'est trop simple, je pourrais ajouter que c'est aussi un travail par le prisme des végétations, jusqu'au socio-écosystème.
Ok.
Deuxième invité, donc juste à côté de Annelise Mureau, il s'agit de Juliette Blanchet. Vous êtes chargée de recherche CNRS à l'Institut des géosciences de l'environnement, IGE. Juliette est donc hydrostatique. Statisticienne, c'est bien cela?
Statisticienne.
Statisticienne.
Voilà, c'est ça. Je suis statisticienne et j'étudie des données liées à l'eau, donc que ce soit du côté des inondations ou de la sécheresse. Donc on peut dire hydrostatisticienne.
Mmh. Ah, c'est un bon exercice d'articulation. Donc hydrostatisticienne.
Voilà, c'est bon.
Et
ça.
À ma gauche, un grand monsieur, un très grand monsieur avec une petite chemise blanche. Western, voilà une sorte de cow-boy de Carpentras avec cette petite chemise magnifique qui sort à chaque grande occasion. Un grand monsieur, donc Hugues François. Tu es ingénieur de recherche tourisme et système d'information à l'INRAE.
Et je travaille sur les stations de montagne en particulier.
Voilà, et alors il ne fait pas que ça. Hugues, une activité incroyable, car qui gère en même temps 22 ministères, on pourrait dire. Donc le premier ministère qui gère, c'est un ministère de l'éducation, puisqu'il est aussi responsable et président de la FCPE à Saint-Marcellin. Tu es aussi syndiqué, responsable syndical au sein de l'INRAE. Tu as résolu le problème du paludisme dans le Moyen-Orient. Tu t'occupes dans pas longtemps de régler les problèmes qui se passent au Soudan. Enfin, tu fais quand même beaucoup de choses, quoi.
Et pour l'apéro, je sauve la planète.
Voilà, c'est ça. Et voilà, pour l'apéro, tu t'essayes de sauver la planète. Hugues est à ma gauche aussi, près de moi, parce que Hugues est quelqu'un qui, s'il n'était pas là, nos douces voix que vous entendez cet après-midi n'existeraient pas. Nous, d'ailleurs, je n'existerais pas, parce que c'est une forme de père pour moi. Il a financé l'ensemble, il est allé chercher, pas avec ses sous, mais l'ensemble de ce que vous pouvez voir au couvent des Carmes, nos temps de résidence. Il a convaincu des financeurs proches de leurs sous, et aussi et vous aussi, puisque c'est aussi un peu vos impôts, et il est allé convaincre plein de gens pour organiser ce temps de résidence, cet temps de résidence et ce qui se passe cet après-midi au couvent des Carmes. Donc voilà, merci à Hugues François d'être là et vivant et combatif.
Merci.
Là, il y a de l'enjeu. Hein.
Ah ouais, là, il y a de l'enjeu. Il fallait que je le présente comme ça, parce que pour les 18 auditeurs qui nous écoutent, c'est important qu'ils essayent de convaincre d'autres auditeurs de dire qu'Hugues François est quand même... C'est pas Aurélien Barreau, Hugues François. Déjà, il a pas beaucoup de cheveux par rapport à Aurélien Barreau. Enfin, il est assez décarni. Il a pas l'aura qu'a Aurélien Barreau, mais il commence à s'installer. Il commence à faire de l'ombre. Voilà.
Oui, pas avec mes cheveux. Hein.
Oui.
On parlera notamment de neige et de dépendance un petit peu dans les stations de montagne. Hein, c'est ce qui vous tient à cœur aussi.
C'est effectivement mon sujet de recherche actuellement.
Alors vous allez voir que dans ce 2 heures de direct, il y aura des blancs, des trous, des gens qui se regardent avec un air vitreux pour se demander qu'est-ce qui se passe maintenant. Que je voudrais vous susurrer dans vos canaux auriculaires, vous auditeurs, 18 auditeurs, peut-être 19, peut-être un auditeur. Nous avons gagné. Reste
tout à l'heure,
toi.
On a gagné. Hein.
Voilà, peut-être Virginie, Gérard ou Jean-Claude, reste avec nous. Moi, ce que j'aimerais vous parler, c'est de cet endroit magnifique qu'est le couvent des Carmes. On a été super bien accueillis par son personnel. Voilà, dans cet endroit magnifique, et on a des pommiers. Ce matin, on s'est levé avec un petit brouillard magnifique où il y avait peut-être le fantôme d'Humbert II. qui rôdait par là, qui nous regardait et qui se demandait « Tiens, qu'est-ce que font ces gens ici à parler du changement climatique ? Est-ce que lui, Humbert II, pouvait s'imaginer où on en serait actuellement ? Est-ce que lui, où il se battait peut-être pour un Dauphiné indépendant, pour un Dauphiné libre ?» Pour un Dauphiné hors du Royaume de France, hors de l'Empire romain germanique, est-ce qu'il pouvait s'attendre à ce qu'on, à ce que la planète se réchauffe, à ce que ce capitalisme ambiant, ce capitalisme-là qui nous entoure, ce marché qui nous entoure autour de nous, ce capitaliste qui nous regarde, qui est là, et qui peut-être qui nous dit on ne s'en sortira pas, puisqu'à chaque fois il faut re-questionner le marché, il faut demander au marché si tout va bien. Parlons-en du marché. Le marché est prometteur. Mais oui, le marché s'effondre. Mais le marché panique. Le marché est en berne. Le marché est dans l'incertitude. Le marché se stabilise. Le marché se relève lentement. Le marché récompense les bons élèves. Le marché est sensible. Il arrive même parfois que le marché verse sa petite larme. Le marché fait preuve d'une étonnante résilience. Le marché parie à l'évidence sur une reprise de l'activité mondiale au second semestre, ainsi que sur l'appui sans limite des banques centrales. L'incroyable vigueur du marché défie l'entendement. Et le marché réagit violemment. Le marché va très mal. Le marché fait grise mine. Le marché a une tête affreuse ce matin. Le marché n'aurait pas dû se mettre minable à la vodka hier soir. Le marché est impacté. Oh, le marché est frileux. Le marché ne doit pas oublier de mettre son petit cache-nez quand il sort. Le marché demeure sur ses gardes. Il faut gagner la confiance du marché. Le marché doit être rassuré. Le marché donne. Le marché reprend. Les voies du marché sont impénétrables. Le marché est infiniment bon. Tu ne prononceras pas le nom du marché à faux, car le marché ne laisse pas impuni celui qui prononce son nom à faux. Le marché exige des sacrifices. Oh, le marché veut boire le sang de 3 jeunes vierges à chaque solstice. Heureux celui qui meurt en combattant les ennemis du marché. Soumettez-vous au marché, gloire au marché. Le marché Uber Alès. Voilà, c'était un texte de Kobe, le marché. Le marché, il est là, il est parmi nous. Et peut-être que nous allons donner la parole aux consommateurs.
Tout à fait.
De ce marché, aux gens, au grand public, à la masse.
Exactement. On en profite pour saluer aussi Maëlys qui se situe ici, qui va interpeller également le public
bien
au cours
sûr
de cette émission en direct, justement. Pour compléter également les micro-trottoirs qui ont été effectués aussi en amont de par ailleurs.
Et puis pour les gens qui nous écoutent, pour vous décrire Maëly, c'est une jeune demoiselle armée d'un mouton sur son dos qui défend le pastoralisme à fond jusque dans son sac à dos. Maëly est une jeune comédienne, est une reporter sans frontières, mais elle est à 25 mètres de nous, donc ce qui n'est pas une distance énorme. Alors voilà, on va faire c'est le test micro. On est à 25 mètres, mais on ne s'entend pas. C'est pour vous dire la technique incroyable qu'on a mis en place.
Et je pense que tu es très gentil, parce que je pense qu'on est à peu près à 5 mètres de distance au maximum.
Oh oui.
Mais au moins, tout le monde m'a repéré dans les environs. Donc,
donc
c'est
vous voyez, Maëlys avec ses longs cheveux blonds et son petit mouton sur son dos. Soyez gentil avec elle et mignon. Répondez à ses questions, vous serez gentil.
Merci bien.
Allons-y pour une première mouture de différentes personnes interrogées qui vont se livrer, pêle-mêle par des thèmes. On va un petit peu comprendre le sens au fur et à mesure des expressions.
Ils sont légitimes, ils ont le savoir, mais comme ils n'ont pas le pouvoir, on ne les écoute pas suffisamment. Le GIEC a raison et dans son droit légitime, mais le problème c'est que le droit positif, le droit légal, elle ne les écoute pas. On a bien vu Hulot qui était parti du gouvernement. On a bien vu que rien n'est vraiment fait, que tout est fait au profit des industriels.
Voilà. Heureusement qu'il y a les chercheurs. Bon ben, comme je t'ai dit tout à l'heure, hein, ils n'ont pas beaucoup de moyens pour avancer, malheureusement. La recherche, elle n'est pas vraiment soutenue. C'est mon point de vue. Hein. Et oui, il faut les soutenir, il faut les laisser avancer.
Voilà. Okay. Et ben, je crois qu'il faut qu'on les écoute. Hein. Il y a un mouvement qui s'est créé de scientifiques en rébellion parce que justement ils n'arrivent pas à être écoutés et parce que alors qu'il y a un accord massif entre eux quoi. Le GIEC c'est pas des uluberlus hein. Et c'est il y a vraiment un accord massif et les politiques n'en tiennent absolument pas compte. Donc c'est vraiment très grave ça.
Les politiques n'en tiennent absolument pas compte. Peut-être justement une réaction à chaud des chercheuses et chercheurs ici présents.
Votre rôle dans l'espace public. Est-ce que vous, en tant que scientifique, en tant que chercheur, vous sentez écouté, entendu, voilà, toutes ces questions-là.
Je pense qu'on n'a jamais occupé autant d'espace dans l'espace public et dans l'espace médiatique que ces dernières années. Mais finalement, c'est presque pour mieux invisibiliser le propos. C'est-à-dire qu'il y a l'espèce de recherche d'une recette miracle et puis on prend la science comme argument d'autorité, un petit peu à toutes les sauces, tout le monde peut revendiquer la science un petit peu comme il veut, et puis bah, du coup nous on sait plus trop où on habite, quoi. Nous on fait notre job de scientifique, mais on n'a pas forcément vocation à être sur le devant de la scène, et c'est marrant le dernier mot employé par la dame qui parle de, c'est pas des choses graves, qui était effectivement bah, Le terme de l'intervention, à la fois d'Alain Damasio, mais aussi de Valérie Masson-Delmotte, que j'ai cité hier en introduction du vernissage psycho-introductif, où effectivement, la question, c'est la gravité de la situation et quels moyens on se donne pour y répondre. Scientifique en rébellion, c'en est un, il y en a sans doute d'autres, et ça pose toute la question sur la manière de faire notre métier. Est-ce que nous, on est là pour prendre une part active au débat social? Est-ce qu'on est là pour être proactif comme le propose Scientifique en rébellion? Ou est-ce que, au contraire, on a intérêt à rester à notre place de scientifique, à alimenter les débats et puis à laisser les politiques s'en emparer pour faire des choix qui sont de la politique, qui ne relèvent pas d'une vérité scientifique quelle qu'elle soit? La science, ce n'est pas une nouvelle religion. C'est un petit peu le sens qu'on essaye de lui donner aujourd'hui. Et je pense que pour tout scientifique, c'est un sens vers lequel il ne veut pas aller a priori, sinon... Il serait dans une église, il serait pas dans un labo, quoi.
Je voulais dire qu'il y a une sorte de décalage qui se passe là ces dernières années. Parce qu'en fait, nous, on a été recrutés pourquoi ? On n'a pas été recrutés pour faire de la politique, on n'a pas été recrutés pour influencer les politiques. On a été recrutés pour faire améliorer les savoirs. Ça, c'est ce qu'on fait depuis des dizaines d'années. On est tous d'accord entre nous qu'il y a un changement climatique. Il n'y a absolument aucun scientifique qui vous dira le contraire. Mais en fait, on a quand même l'impression de parler. Et comme on dit plusieurs auditeurs tout à l'heure, on ne nous écoute pas. Alors, je ne sais pas, on ne nous entend pas, on ne nous écoute pas, j'en sais rien. Mais effectivement, du coup, il y a eu un déplacement des scientifiques qui se sont dit, on n'arrête pas de parler et finalement, ça ne change rien. Peut-être qu'il faut maintenant commencer à avoir des actions un peu plus, on va dire, politiques. Donc, il y a des collectifs comme Scientifiques en rébellion, etc. Et je ne sais pas quelle est la meilleure façon de faire, mais c'est sûr qu'on est un peu... on a quand même l'impression... Moi, j'ai souvent l'impression d'être devant un mur. C'est-à-dire qu'on parle, on fait des avancées scientifiques, on montre de plus en plus de choses, et puis en fait, quoi. Voilà. Donc, en ce moment, il y a beaucoup de discussions au sein des scientifiques sur à quoi ça sert et comment faire pour que ce qu'on fait ait plus d'impact, quoi, et fasse plus de bouger les choses. Et ce n'est pas facile, parce que ce n'était pas à la base, notre métier. Hein. Ouais. Notre métier, c'était pas ça.
Et toi, Annelise, qui représente l'espoir, puisqu'on a quand même deux personnes plutôt âgées, qui sont plutôt vers une fin de carrière, faut le dire. Et toi, qui rentres en thèse, qui représente cet espoir des chercheurs, qu'est-ce que tu imagines ?
Alors, c'est vrai que j'ai beaucoup d'espoir, en vrai, en arrivant dans la recherche. Mais il faut être lucide et il faut savoir que produire de la connaissance, c'est plus suffisant, c'est pas suffisant. Parce qu'il faut aussi savoir que cette information doit être bien reçue et comprise par l'auditoire. Et elle doit être écoutée. Le problème, c'est que le rôle des politiques est tellement important de nos jours. Et les politiques sont tellement diverses, avec des intérêts tellement divers, qu'il faut aussi, nous, en tant que scientifiques, avoir la responsabilité de savoir ce que va devenir notre information et aussi bien communiquer sur nos travaux. Et il faut aussi s'emparer de ce qu'on fait, pas simplement produire l'information. Et si on le fait, j'ai beaucoup d'espoir pour...
Elle est encore jeune.
Pour l'avenir.
Ah, vous entendez ? À nos 18 auditeurs qui nous écoutent et nos 20 personnes dans le public, donc ça commence à faire un auditoire quand même de 38 personnes, on en est très content. Oui, il y a
un peux t'interrompre
côté... Comment ?
Parce que moi, tu m'avais vendu 6000 auditeurs, hein. Moi, je suis là pour faire de la com, faut jamais l'oublier, hein, parce que c'est mon nouveau métier. Et du coup, tu vois, là, je suis un petit peu perturbé, si tu me dis qu'il y a 40 personnes... Mais... J'ai dû écouter mon repas, tu vois, c'est quand même extrêmement déstabilisant, voilà, ce que tu nous annonces.
Vous entendez, ils sont dans l'aspect communicationnel aujourd'hui.
Ah, on est là pour se vendre, de toute façon, non mais quelque chose soit clair, aujourd'hui on fait partie de la sphère médiatique.
Oui, ouais, bien sûr. Et moi j'ai une question à vous poser, c'est est-ce que vous pouvez tout dire ? Est-ce que vous êtes limité dans votre... parole. Est-ce que vous vous sentez... Est-ce que vous pouvez... alors, quand je dis tout dire, je sens U qui trépigne. C'est pas non plus d'insulter les gens à tout va, mais est-ce que dans votre discours, le discours politique, dans votre engagement, est-ce que des fois vous vous sentez coincé par rapport à votre titre de scientifique ?
J'allais dire qu'on a toujours plusieurs casquettes et en fait ça dépend quelle casquette on prend. Moi si j'interviens ici c'est plutôt comme scientifique, je vais rester sur la ligne scientifique de ce que je connais, de ce qu'on connaît sur le climat, sur tout ça. Et pas de la ligne plus politique qui pourrait être une autre casquette que j'aurais dans une autre assemblée. Okay. Donc voilà, je me restreins de ce point de vue là, quoi.
Okay.
c'est de séparer les casquettes.
Et t'as des bandanas aussi ou tu peux changer de couvre-chef?
Non, je préfère les casquettes.
Ouais, d'accord. Okay.
Alors oui, clairement, parfois on se sent un peu limité quand on a envie d'aller toujours plus loin. Alors la neutralité chez les scientifiques, moi j'y crois pas vraiment. On doit être objectif dans ce qu'on fait, mais neutre, pas vraiment. Et on a envie d'aller toujours plus loin. Moi, parfois, j'ai envie de prendre des bâtons, des casseroles et d'aller faire avancer encore plus les choses. Mais en fait, il y a des choses qui ne sont pas possibles quand on tient à son statut, quand on tient à son emploi. Et voilà, même moi, en tant que fonctionnaire du ministère de l'Agriculture, forcément, je dois aussi porter les politiques agricoles. Je dois aller dans le sens, dans le bon sens et pas toujours aller à contresens. Mmh. Et donc ça peut être un peu limitant quand on a envie que ça aille plus vite.
Vous okay. êtes tenu un devoir de réserve, c'est ça aussi un peu...
Oui, un devoir de réserve, oui. Ouais.
Donc, ok, en fait, on essayera de casser votre...
Il y a plusieurs formes de limites, quoi.
Comment ?
Il y a plusieurs formes de limites.
Ouais.
Il y a la première limite qu'évoquait Juliette, qui me semble extrêmement importante, c'est de ne pas sortir de notre rôle de scientifique. Et c'est toujours pareil, c'est l'idée que la science ne devienne pas une religion, quoi, qu'on ne soit pas les prédicateurs des temps modernes. Et qu'on reste bien à notre place, voilà. Nous on fait notre boulot scientifique, on est capable d'en donner les résultats et les limites, et ça s'arrête là, c'est pas une décision politique qu'on prend. On peut éventuellement essayer de prendre plus de place dans l'espace médiatique pour que les connaissances, elles soient répandues, elles soient prises en compte, elles participent au débat public de manière constructive, c'est notre objectif en tout cas, même si c'est pas toujours comment elles sont prises. Et puis après on a des limites beaucoup plus prosaïques dans l'exercice de notre métier, où que ce soit comme moi qui travaille avec des stations de sport d'hiver, je vais pas forcément pouvoir me permettre de m'exprimer publiquement sur l'ensemble de mes convictions politiques à ce sujet, parce que à un moment donné, si je veux pouvoir faire un travail de qualité, faut aussi que j'ai accès aux acteurs qui font tourner les stations de sport d'hiver, faut aussi que je puisse discuter avec des gens sur le terrain qui dépendent des stations de sport d'hiver, et que le jugement de valeur il passe pas avant l'explication. Et puis après on a aussi des financeurs, mine de rien, et ben là aussi on a une forte contrainte, et c'est une contrainte qui va de plus en plus loin aujourd'hui, puisque la recherche et son financement dépendent de plus en plus du fait de répondre à des appels à projets, et la garantie d'avoir les moyens de faire sa recherche apportée par le public, c'est plus la même que ce qu'elle était il y a quelques dizaines d'années, et ça va quand même en devenant de plus en plus insistant. Et à un moment donné, ben voilà, si on répond pas aux demandes de nos financeurs avec les bons mots-clés, avec les bons trucs qu'ils ont envie d'entendre, eh ben on n'a pas de financement et on peut plus faire de recherche non plus. Donc effectivement, on est toujours pris dans une espèce de jeu de contraintes et d'équilibre entre le fait d'avoir les moyens de faire de la recherche et la capacité à porter nous-mêmes les messages et les interprétations qu'on peut en tirer de nos messages de recherche. Et je pense que pour certains d'entre nous, on est souvent militants d'un côté et chercheurs de l'autre.
Voilà, parce que c'est un peu sensible de aussi de communiquer vos convictions, simplement, aussi, de par vos recherches, ce que vous pouvez aussi mettre à jour.
Oui, et en même temps, notre statut scientifique doit pas donner forcément une valeur d'autorité, voilà, à ce qui reste des convictions et des choix politiques qui reposent avant tout sur des valeurs et pas sur une approche rationnelle, dans un discours méthodologique qui est bien élaboré et compagnie.
Leur tour, on fait une première petite respiration musicale.
On commençait un peu à s'endormir.
Oui, on parle trop quand on est scientifique.
Quoi. Dormir. On a perdu 5 auditeurs, on m'a dit dans mon oreillette. On est retourné à 32, ce qui est dommage. Donc oui, on peut partir sur une petite page musicale, un petit temps musical. Et on écoute donc La Chienlit. C'est ça. C'est parti.
Your mother is a bitch. Your father is a bitch. Your sister is a bitch. And your brother is a bitch. Ta maman est une biche. Ton papa est une biche. Ton petit frère est une biche. Et ta petite sœur est une biche.